Il est 7h01. Franchis cette porte imperceptible qui mène du sommeil à la vie, qui libère ton corps de sa gangue, de sa prison, le corps en mutation, le corps oreillé, le corps couché, le corps édredon, le corps prison, le corps horizontal, les rêves enfermés, l'état létal, et puis soudain les réveils, les violences, les marteaux, les enclumes, le pas des sabots dans la rue, une voiture qui vrombit. Et c'est la vie. Et c'est debout. Allez, saute du lit. Le tien, l'autre. Celui où tu rentres chez toi, tu dis « Pardon madame, je m'étais trompé d'étage. » Ce n'est pas grave. La nuit, ça salit, le jour, ça reverdit. Allez, vas-y, allez, attaque. Paf, rue, boulevard, avenue, plage. Je ne sais pas quoi. Tes pieds aujourd'hui sont ton premier contact avec la vie physique. Via la vie mentale, à coups de café, de cachet, de rêve, d'espérance. De la femme que tu aimes ou l'autre, ou celle que tu n'aimes pas, mais celle qui te donne envie de te battre, de lutter, porter des coups. Je marche dans la rue, bonjour madame l'épicière.
Bonjour monsieur, comment allez-vous?
Donnez-moi du pain et du beurre pour que je mette l'un sur l'autre.
Tenez, ça fera 50 francs.
Ouh là là, c'est cher, mais c'est des sous anciens. On est passé à l'euro, ne le saviez-vous point?
Mais au Front National, nous sommes encore au Front. Et ça nous permet de rester dans le monde d'avant.
Je ne savais pas que vous étiez frontiste. Soudain, mon visage de joie est devenu triste.
Oh.
Bon, bonjour Arnaud.
Bonjour.
Atmen,
oui.
Vous deviez intervenir à ce moment-là dans la chanson de dire « Alors les gars
Alors les gars, c'est Jacques Undemy ?»
Pardon ?
Jacques Undemy, parce que c'est une chanson à la Jacques Demy, Jacques Undemy.
Allez, café pour tout le monde.
De toi.
Près de toi.
Très, très près.
Près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non ?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird.
J'en mangerai.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Qui est Thierry Paret? C'est évidemment une des questions à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec les plus grands spécialistes. Professeur Aymard de l'Académie de Bordeaux de comportement humain, vous reviendrez là-dessus tout à l'heure.
Je suis évidemment bien à l'écoute de ce que va dire Monsieur Paret. Et je vais juger avec les armes que j'ai, c'est-à-dire les arguments.
Les arguments derrière les mots, il y a bien sûr forcément des choses de lui qui vont affleurer, qui vont ressortir. Ce n'est pas qu'une machine de l'information, c'est évidemment un être humain avec ses doutes, ses songes. Et je suis avec Bernard Michel,
oui.
Bernard Michel qui est coach,
oui.
Coach vocal.
Oui, la voix est importante, la voix est là, la voix du matin, la voix du soir, la voix du milieu, la voix du midi.
A tout de suite Thierry, le journal de 7h. 4, le fameux.
Radio Nova.
Bonjour tout le monde. Vous êtes fébrile ce matin, vous êtes inquiet, vous êtes anxieux, vous êtes stressé, vous avez mal dormi, vous ne pouvez rien avaler, vous avez mal au ventre. Oh, inutile d'aller consulter, hein, je peux vous dire ce que vous avez. C'est simplement que vous allez passer le bac. Voilà, première épreuve ce matin et ce sera la philo.
Oui, c'est vrai, comment tu le sais?
Évidemment, mais je sais tout, Edouard. Au moins 12 morts et près de 80 blessés. Ça, c'est le bilan provisoire de l'incendie qui a ravagé une tour HLM de 120 logements à Londres dans la nuit de mardi à mercredi. Les secours ont déjà prévenu que le bilan définitif de cette catastrophe sera plus lourd. Pour l'instant, les raisons du drame, elles demeurent inconnues. Certains parlent d'une explosion, peut-être d'un réfrigérateur, mais celle-ci pourrait être une conséquence de l'incendie et non sa cause. En revanche, la colère gronde chez les habitants et les riverains sur l'état du bâtiment. Beaucoup accusent la mairie de quartier d'avoir délaissé l'endroit. Les témoins estiment que le nouveau revêtement, une sorte de plastique brillant installé il y a un peu plus d'un an, a contribué à la propagation du feu. Plus de 30 ans après, l'affaire Grégory continue de défrayer la chronique. Il s'agit de l'une des grandes affaires criminelles non résolues du 20e siècle. Le Grégory Villemain avait été retrouvé dans une rivière en octobre 84, le 16 précisément, pieds et poings liés. Trois personnes ont été interpellées hier, l'oncle et la tante du père de l'enfant, ainsi qu'une belle-sœur de ce dernier. Les grands-parents de Grégory ont également été entendus, mais en audition libre, tout simplement parce que leur état de santé ne permet pas leur placement en garde à vue. Et de 5, pilier du Parlement européen où il siège pratiquement sans discontinuer depuis 84, Jean-Marie Le Pen est aussi le recordman des levées d'immunité parlementaire. Le Parlement européen a voté une nouvelle fois hier la levée de son immunité parlementaire. Ce dernier devra répondre devant devant la justice française de propos anti-immigrés tenus en 2009. Et puis aujourd'hui, ce jeudi, c'est la levée de l'immunité de sa fille Marine Le Pen. C'est sur cette levée que les députés européens vont se prononcer. Le candidat socialiste déchu à la présidentielle, Benoît Hamon, affirme soutenir sans hésiter la candidate de la France insoumise, opposée à Manuel Valls au second tour des législatives dans la première circonscription de l'Essonne. Le défenseur des droits n'abandonne pas sur le dossier calaisien. Dans un communiqué d'une rare virulence, Jacques Toubon dénonce, je cite, les atteintes aux droits fondamentaux les plus élémentaires dont sont victimes les exilés présents à Calais. Avec la crise qui oppose le Qatar et ses voisins depuis le 5 juin, les importations, dont celles de lait depuis l'Arabie Saoudite, sont interrompues. Un entrepreneur a trouvé la solution. 4000 vaches de près de 600 kilos chacune vont être importées par les airs. Il faudra 60 avions affrétés par la compagnie Qatar Airways pour transporter les animaux achetés aux États-Unis et en Australie. C'est le plus gros transport aérien bovin de toute l'histoire. La production de lait de vache devrait commencer à la fin du mois. C'est officiel, en Irlande, Léo Varadka, fils d'immigré indien de 38 ans, revendiquant ouvertement son homosexualité, a été élu par le Parlement à la tête du gouvernement. Un profil qui étonne hein, dans une Irlande réputée catholique et conservatrice, même si sur le plan économique, le nouveau Premier ministre se situe dans la pure orthodoxie libérale. Un navire iranien a illuminé au laser un hélicoptère et des navires militaires américains dans le Golfe. La marine américaine juge que c'est très dangereux et que ce n'est pas professionnel du tout, ce comportement. L'armée américaine dénonce régulièrement le harcèlement de navires iraniens sur ses bateaux militaires. À partir d'aujourd'hui, les appels et les textos ne sont plus surtaxés lorsqu'on se déplace dans un autre pays de l'Union européenne. Il aura fallu 10 ans quand même de négociations pour faire disparaître ces frais d'itinérance, dites aussi frais de roaming. Et puis on a appris hier la mort prématurée d'Hervé Guéquière, ancien otage en Afghanistan entre 2009 et 2011. Le journaliste Hervé Guéquière avait 54 ans, il était atteint d'un cancer.
Nova. D'habitude, vous nous adoucissez un peu le réveil.
C'est vrai.
En nous disant 2-3 ou 3-0, ou tiens, guingant. Et puis là.
Ouais, j'ai pas terminé sur une note très gaie. J'ai failli terminer sur le bac, puis je me suis dit, j'ouvre avec.
Oui, mais en même temps, vous ouvrez sur le bac, donc ce qui nous permet de. Nos âneries, nos bêtises ou nos rigolades, elles tombent pas tout de suite sur une catastrophe.
C'est
donc ça nous permet que le collage soit moins violent, hein, le point de coupe, on dirait en montage. Mais en revanche, sur la fin, vous nous auriez dit, à Saint-Tropez, il va faire 28, il y a un retour du monokini sur les plages de Pamplonne. Moi, j'aurais été content.
C'est vrai qu'un petit mot de météo, t'as raison, un petit mot de météo, ça l'aurait fait.
Pardon,
un petit mot de météo, ça l'aurait fait, effectivement. Ouais, c'est vrai.
Alors, mais pour la météo, il y avait, moi, je ne sais pas, je comprends pas cette émission, je ne sais pas qui l'a fait. Normalement, il y a Tito.
Il est où?
Je ne sais pas.
Il n'y a pas
de réunion de rédaction. Il y a pas, les gens ne se parlent plus. Moi, je suis à Nyon, vous êtes à Paris. Je ne comprends déjà pas ce truc-là. Je ne comprends pas. Il y a Marie Misset qui est là.
Oui.
Marie, elle est sur son ordinateur en train de préparer sa revue de presse.
Oui.
Arnaud Aymar m'a présenté un billet de train à lui faire rembourser de 700 euros. Et Arnaud,
Il y a un peu les frais de bouche.
Il y a des frais de bouche depuis deux mois. Il y a deux mois de frais de bouche. Qu'est-ce que c'est que ce gigot de 7 heures que vous avez mangé? Pourquoi c'est Radio Nova qui vous le paierait?
Je ne sais pas, parce que je trouve ça normal.
Quand tu es à Atmen et demandé une chambre d'hôtel pour nous rejoindre, t'as qu'un lit pour trois.
J'ai une énorme famille.
Écoutez, Thierry, on vous fait un gros bisou. Vous êtes qui est avec vous en studio?
Il y a Charlène avec moi.
Vous vous tenez chaud?
Bah oui.
Tout de suite.
Plus près de toi.
7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Il est 7h15. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est pour être utile. Parce que très souvent le matin, l'une des choses qu'on fait le plus, c'est vérifier si on est en retard. Et grâce à ce petit service, ce petit plus que je vous propose, vous n'avez pas eu à regarder votre montre, votre réveil ou le four de votre cuisine. Ou votre portable, parce que je vous l'ai dit l'heure.
Il est 16 là maintenant.
Alors maintenant il est 16.
On va faire longtemps avec ça.
Non mais Atmen, il y a un petit service, il y a un service le matin. C'est pas juste des types qui disent des âneries ou qui disent des choses intéressantes comme Marie. C'est aussi un petit service à la personne. Comme je ne peux pas aider les gens à s'habiller ou refaire les lits ou faire couler les bains ou vérifier la température des douches ou laver les dents, je donne la. Il est quelle heure là?
16h30 secondes.
16, mais c'est encore 16, sur
16. 16, on est sur 16.
C'est comme on dit 7 ans et demi, mais à partir de votre âge, 60. Hein, on ne dit plus les demi, donc on ne dit plus les 30 secondes. Et les 7h16. Vous comprenez ce que je veux dire?
D'accord.
C'est tant qu'on n'est pas arrivé à la minute supplémentaire, on est toujours à la minute inférieure.
D'accord.
Donc là, il est. Tout à l'heure était 7h15, vous avez bien fait de signaler le passage aux 7h16, mais il faut vraiment attendre le 7h17 pour l'annoncer.
D'accord.
Vous comprenez ce que je veux dire ou pas?
Je bois vos paroles.
Si vous me dites 7h16 et 50 secondes, c'est 16h16, c'est tout, vous comprenez?
Ah, 17.
Voilà, là il est 7h17, je vous remercie. On est toujours...
J'adore quand vous me
parlez. Où est-ce qu'on est?
On est toujours à Venterolles, ce petit village au-dessus de Nyons, parce que vous avez eu la gentillesse de me rejoindre parce que je tourne un film de cinématographe l'après-midi avec Suzanne Clément, Monsieur Poulvorde, qui est venu hier nous voir. Et puis il y a Thierry. Voilà, je rappelle le petit dispositif. Tout le monde dort dans la maison. Là, on est dans la cuisine, salon, salle à manger. Atman a dormi par terre là. C'était très joli.
On est à moitié habillé parce qu'on n'a pas vraiment réussi à s'habiller.
Et c'est le club des connoisseurs. Bonjour à tous.
Bonjour.
Partout, partout, l'information grouille, circule, se répand comme une traînée de poudre. Et même ici, dans les collines, nous sommes au courant de ce qui se passe, surtout grâce à Marie Missé, oui. Une femme hyper connectée.
Ouais, c'est une info d'il y a 3 ans que je vais vous donner, 4 ans même.
Ah bon, mais pourquoi elle ressort aujourd'hui?
Eh bien, parce que l'affaire du petit Grégory est à la une partout. On a peut-être résolu, en tout cas, qui était le corbeau dans l'affaire du
Alors,
petit
Alors, on se rappelle, c'est
Grégory.
Ce petit garçon qui était mort dans la Vologne. Hein.
Voilà.
D'ailleurs, pour le ventre qui n'est pas là ce matin, il y a eu tout un truc là dans son film. C'est arrivé près de chez vous. Vous savez, il fait un petit cocktail, c'est le petit Grégory. Il met un sucre dans, avec une olive.
Enfin,
il revient tout à l'heure, il nous le racontera. Donc, qui a tué le petit Grégory? Son beau-père avait été tué par son
Bernard
père.
Laroche,
Bernard
oui.
Laroche, ça te mène par... Oui,
oui on dit qu'il est coupable, Bernard Laroche, puisque...
Il avait tué... Enfin bon, donc on ne savait pas. Ils
mais on
ne
savait pas
qui
était le corbeau.
Il y a un corbeau qui avait annoncé en découpant des lettres, c'est toi, il va crever ton fils. Enfin bon, je pense, merci, c'était bien résumé.
Une belle histoire de famille, mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler.
Ah bon, bah.
C'est d'une belle bourde, mais si, mais c'est un rapport. Du festival de jazz de Montreux, il y a 4 ans. Qui avaient réussi un truc assez chouette. Ils avaient fait des petites affiches pour la garderie du festival un petit peu partout. Et sur ces affiches, ça devait être quelqu'un qui n'était pas familier de l'histoire du petit Grégory ou qui était drôle et insolent en même temps. Il avait mis l'image du petit Grégory pour indiquer la garderie du festival de jazz de Montreux. Donc il y avait écrit garderie par là, et là vous aviez l'image du petit Grégory, ce qui donnait vachement envie de donner son enfant.
Il cherchait un petit enfant un peu beau, je pense.
Ils avaient pris sur internet une image d'enfant qui venait, on tape enfant, et venait, c'est formidable, on va annoncer la garderie sur cette image neutre d'un enfant neutre.
Et les enfants pouvaient jouer dans un fleuve avec des sacs en plastique.
C'est de très mauvais goût.
Très mauvais goût.
Je vous le dis, c'est de mauvais goût.
Alors moi j'ai une info à donner.
Vous êtes de mauvais goût.
Moi, mais j'aime bien parce que ça me permet d'être différent.
Vous avez un mauvais goût. Tout votre corps, toute votre âme est comme une bouche qui aurait mangé un camembert ce matin. Tout votre être.
Nous, les classes moyennes, on fait partie.
Il a mangé un camembert ce matin.
Cœur de la société française, monsieur.
Vous n'êtes pas.
On a mauvais goût.
Ça n'est pas parce que vous avez vécu.
On vous admire, vous les riches.
Vous avez vécu en milieu pavillonnaire que vous allez me faire chier, Arnaud Aymar. Atman Kelly,
oui, alors moi je me suis entraîné à le dire, je voulais parler de la sérendipité. C'est grâce à Charlie Hebdo que j'ai appris ce mot savant et nouveau. La sérendipité, c'est la découverte par hasard, c'est faire une découverte par hasard. C'est-à-dire Christophe Colomb qui par hasard a découvert l'Amérique, Newton qui avec une pomme sur la tronche a trouvé la théorie d'une certaine relativité, ou faire par exemple les tartes tatin.
Ah oui, les sœurs tatin.
Racontez alors les sœurs tatin.
Les sœurs tatin, je crois qu'elles avaient fait tomber leur tarte aux pommes.
Par terre.
Des par terre.
Quelle découverte.
Oh dis donc. Soyez gentils avec les sœurs Tatin.
Ouais,
parce que ne touche rien, la famille Tatin ne touche rien sur la tarte du même nom, éponyme.
Elle ne touche pas d'argent.
Rien. Je suis très ami des Tatins, Bernard Tatin, Claudine Tatin. Je lui dis, vous n'avez pas un rond, les Tatins? Pourtant, vous avez votre nom dans toutes les pâtisseries. Il dit non, elles n'ont rien déposé. Alors, en plus, ils sont agressifs parce qu'ils boivent les Tatins. Il dit, ouais, j'en ai marre, je voudrais.
Non, mais vous aimez ça, la tarte Tatin?
Oui, avec de la crème fraîche. Alors, qu'est-ce
alors pour continuer, en fait, il y a un collectif d'universitaires qui se plaignent parce que le hasard, maintenant, n'a plus droit de citer dans les recherches parce que il faut subventionner, il faut redonner des résultats, donner de l'argent, travailler en laboratoire et donc flâner, rêver, avoir de la poésie et se tromper par le hasard, ça n'a plus droit. Alors les gens se plaignent parce que...
Pourquoi ça n'a plus droit?
Parce qu'il faut donner des résultats, donc on subventionne, on doit donner des dossiers énormes pour expliquer ce qu'on va faire, ce qu'on va développer, ce qu'on va rechercher, et ça ne marche pas.
Il faut dire ce qu'on cherche.
Ce qu'on cherche pour avoir une subvention. Mais si vous dites,
il ne faut pas dire je cherche dans l'absolu, je me balade, ça vient.
C'est comme... me balade dans les prés, je prends une pomme sur la gueule ou je renverse une tarte, et il fallait l'écrire avant. En gros, voilà.
En fait, c'est vrai, on dirige les chercheurs dans des espèces de rails, et ils ne peuvent pas, par exemple, s'ils ont sur la ligne Paris-Bordeaux, ils ne peuvent pas bifurquer vers
S'ils ont une idée qui les concerne clairement, ils ne peuvent pas la dire sur Paris-Bordeaux.
Voilà. C'est peut-être un peu une image un peu...
Si jamais vous êtes au CNRS que vous nous écoutez, vous nous excusez pour certaines approximations, bien entendu.
Oui, tout à fait. Je ferai un parallèle avec l'amour. C'était quand on le cherche plus, c'est là qu'on le trouve. Et c'est en fait ça que les gens voudraient développer dans les laboratoires. C'est-à-dire ne pas chercher, ne pas avoir le chiffre à faire.
C'est plutôt bien. Ça veut dire que toute cette mentalité-là de gens qui... Ah, ouais, tu cherches ça, ils trouvent comprennent rien.
Ils comprennent rien.
Ils vont finir par être moins
efficaces. Il faut laisser l'esprit flâner, vagabonder.
Il y a même un nouveau magazine scientifique qui est consacré seulement aux erreurs scientifiques. Et les mecs disaient que ça n'existait pas avant. Et le but, c'est de dire qu'on apprend aussi de ces erreurs, de tout. Et ça empêchera d'autres scientifiques de refaire les mêmes études qui ont déjà mené à l'échec.
Et la phrase de Picasso, je ne cherche pas, je trouve. Vous en pensez quoi?
C'est parfaitement.
Moi, je connaissais celle, j'achète le repas, mais pas le restaurant.
D'accord, évidemment.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Il faut casser les règles établies, les habitudes. Météo avant le journal, la météo d'Arnaud et Atmen.
Météo. En Île-de-France, il fera 25. Soleil et pluie. En Provence, Côte d'Azur, il fera 29. Bordeaux, 22. Brest, 18. Toulouse, 25. Perpignan, il fera 29. À Strasbourg, 25. À Mulhouse, 25. Oh, Valenciennes, Fatch, il fait 23 dans le Massif Central, 24.
Pourquoi Fatch à Valenciennes dans le Nord avec l'accent provençal?
Pour faire une dichotomie un peu sur la région, c'est-à-dire je suis avec l'accent du Midi et je rends hommage aux gens du Nord.
J'achète. Le journal de Thierry Paret, 7h30.
Bah, puisque vous parlez de météo, les garçons, on va quand même préciser une chose, c'est qu'il y a des risques d'orage aujourd'hui assez importants. Alors, c'était déjà le cas hier, hein, ils ont sévi pas mal sur l'Est et ça va être encore de nouveau le cas aujourd'hui. Beaucoup d'orages sont annoncés sur le Grand Est du pays, surtout cet après-midi. Au moins 12 morts et près de 80 blessés, c'est le bilan provisoire de l'incendie qui a ravagé une tour HLM de 120 logements à Londres dans la nuit de mardi à mercredi. Les secours ont déjà prévenu que le bilan définitif de la catastrophe sera plus lourd. L'affaire Grégory, l'une des plus grandes affaires criminelles non résolues du XXe siècle, Grégory Villemain avait été retrouvé dans une rivière le 16 octobre 84, pieds et poings liés. Trois personnes ont été interpellées hier. L'oncle et la tante du père de l'enfant, ainsi qu'une belle-sœur de ce dernier. Les grands-parents de Grégory ont aussi été entendus. Pilier du Parlement européen, où il siège pratiquement sans discontinuer depuis 84, Jean-Marie Le Pen est aussi le recordman des levées d'immunité parlementaire. Le Parlement européen a voté pour la cinquième fois hier la levée de son immunité parlementaire. Ce dernier devra répondre devant la justice française de propos anti-immigrés tenus en 2009. Dans un communiqué d'une rare virulence, le défenseur des droits, Jacques Toubon, dénonce, je cite, les atteintes aux droits fondamentaux les plus élémentaires dont sont victimes les exilés présents encore à Calais. Il serait au nombre de 500 environ. Cet officiel en Irlande, Léo Varadkar, fils d'immigré indien de 38 ans, revendiquant ouvertement son homosexualité, a été élu par le Parlement à la tête du gouvernement. Il est donc Premier ministre. Une fusillade sur un terrain de sport fréquenté par des élus du Congrès américain a fait 5 blessés hier, dont un chef de file du Parti républicain à la Chambre des représentants, Steve Scalise. Ce dernier se trouve dans un état grave. La fusillade a eu lieu près de Washington et le tireur a été tué par la police. Quand les frais d'itinérance tirent leur révérence, à partir d'aujourd'hui, les appels et les textos ne sont plus surtaxés lorsqu'on se déplace dans un autre pays de l'Union européenne. Il aura fallu quand même 10 ans de négociations pour faire disparaître ces frais d'itinérance, dites aussi frais de roaming. On a appris la mort prématurée d'Hervé Guéquière, ancien otage en Afghanistan entre 2009 et 2011. Le journaliste était âgé de 54 ans. Il était atteint d'un cancer. Et puis, le coup d'envoi du bac ce jeudi, ça commence comme d'habitude par la philo. La compagnie créole est-elle bon pour le moral? Voilà, ça c'est un exemple. Vous avez aussi le classique, Sisteron, c'est donc carré.
C'était excellent.
Hein, c'est bon, c'est
parce
pas c'est
que...
J'ai essayé
c'est
de...
du bac, ça.
Non, ça aurait pu être ça. Vous voulez dire la compagnie créole est-elle bonne pour le moral? Vous faisiez allusion à la chanson. C'est bon, c'est, bon.
Voilà, c'est pas mal.
Vous vous rappelez du sujet du bac, dans les sous-doués passe le bac ou pas?
Non.
C'était se rapproche-t-on des autres quand on rit? Et c'était un Africain qui tapait sur un tambour et qui donnait les résultats du bac.
C'était un bon humour. C'était frais.
C'était frais.
Aucun racisme là-dedans.
Non plus. Maria Pacom disait ils me l'auront ce bac. Oui. Moi, j'ai quand même toutes mes références.
Vous êtes vraiment resté là-dessus.
Oui, là-dessus.
Eh bien, le premier assistant du film dans lequel on est, oui. Mathieu Schiffman,
ah oui.
Il joue un petit rôle dedans et quand il nous emmerde trop, quand il nous convoque trop tôt pour le film, on lui ressort sa photo dans les sous-doués passe de bac.
Ah oui, c'est
et
le rouquin.
Je peux vous dire, le plateau, il se calme très vite. Jack Souvent dans la rue.
Belle casserole.
Le l'idéal, c'est pas faire de points, quoi. En SES, l'idéal, c'est, ouais, c'est 8 ou 9, quoi.
Ouais, c'est ça. Je suis avec un troupeau de futurs bacheliers. La tension monte
Quand ça commence à monter, ouais, mais ça devrait aller.
Joseph et Camille
Moi, non, ça va, en vrai, je suis bien. Enfin, en vrai, moi, je suis bien, alors je pense que ça va aller.
Mais je confirme, vous êtes bien, mais vous êtes bien comment, à l'intérieur
toute l'année quand même, donc on a suivi les cours, donc il y a un moment où ça devrait aller, quoi. Il n'y a pas de raison qu'on se plante là.
Là, vous visez à combien, Camille, là?
9, 10, ça va, 9, 10.
C'est quoi aujourd'hui?
Comment ça, c'est quoi aujourd'hui?
Il y a quoi comme examen? Quelle épreuve?
Philo.
Philo aujourd'hui? Est-ce ouais. que si, par exemple, le sujet pourrait être, peut-on, pour passer le bac, peut-on éviter de passer de l'avant à l'après?
Vous me prévenez au dépourvu, là. Franchement,
Camille, asseyez-vous. Hélas, pour arriver à l'après, alors qu'on était dans l'avant, il faut passer par l'événement lui-même. Vous ne pouvez pas dire « je suis après le bac » alors que vous étiez avant, s'il n'y a pas eu le bac entre les deux. Là, vous êtes avant le bac, Camille. On est d'accord.
Oui.
Tout à l'heure, vous serez après le bac.
Ouais.
Mais pour ça, il faut qu'il y ait eu le bac entre les deux. Est-ce qu'on peut trouver une autre solution? Passer de l'avant à l'après sans passer par le pendant?
Je pense qu'un génie pourrait tout d'un coup se manifester et dire qu'il a une machine à avancer dans le temps.
Moi, je vous mets une très bonne moyenne, là, Camille, vous voyez, c'est
ouais.
bon.
Ou alors, c'est un peu l'avenir du futur, quoi, l'avenir du futur.
C'est ça, mais il faudrait juste que quelqu'un se manifeste, quoi.
Et un éclair Camille, de génie. Quelles sont vos méthodes pour réussir cette épreuve de philo? Est-ce que vous avez une tenue particulière? Est-ce que vous avez un matériel de la papeterie particulière? Vous écrivez avec quoi?
J'écris avec un stylo à angle, ça. Pour les bibliques, il faut demander à Joseph.
Ah, et je passe au casque, c'est Joseph.
Pour les bibliques.
Alors donc, moi, ma mère est allée hier à l'église.
Tu sais que cette histoire des bibliques,
je ne suis absolument pas catholique, mais elle a fait baptiser une petite médaille pour moi, que le prêtre a bénie. Et sérieusement, les petites bonnes sœurs vont prier pour Joseph aujourd'hui.
Écoutez, il n'y a pas besoin. Joseph, il n'y a pas besoin d'être religieux pour se faire aider. En période de bac, on peut convoquer un imam, un rabbin, un curé, il n'y a aucun problème. On peut mettre des cierges partout. Et vous, Joseph, vous avez une tenue de bac, un pantalon qui ne frotte pas trop, une chemise qui vous aide.
Je suis en pyjama actuellement. Très, très confortable. Je me mets à l'aise. Ouais.
Vous travaillez sur point de bic, on est sur un 4 couleurs, on est sur un stylo.
Alors,
à plume, à encre,
une pointage B. Pilote gel, j'ai oublié le nom exact. Mais
on est sur quelle épaisseur
après, c'est une épaisseur 0,7, je crois, très précisément.
Oui. C'est fin.
Soyez précis.
Mais oui, c'est une épaisseur 0,7.
C'est très fin.
C'est très agréable.
Ouais, c'est très agréable, c'est très frais. Et à lire pour le correcteur, c'est vraiment un petit plus. C'est un bonus.
Bah
vous êtes malade, Joseph. Camille, je n'ai pas su quelle était la papeterie utilisée par Camille. Et je suis contrarié.
Alors, la papeterie utilisée par Camille,
Snack.
Avec un snack. Quoi, avec un sandwich, un jambon beurre snacké?
Je ne savais pas que ça existait, mais...
Moi non plus. Vous avez renoncé depuis longtemps au stylo Hello Kitty?
Oui, au stylo Hello Kitty, mais sinon.
Bon. Bah écoutez, je vous souhaite un très joyeux bac, pas dans le sens de l'éclat de rire, bien entendu, dans le sens que c'est agréable d'avoir 30 ans et de passer son bac. Moi,
Oui, 35, je dirais même plus.
Joseph et Camille, vous êtes l'avenir de ce pays. Pour vous, je vois de très grandes choses.
C'est très,
je vois
très
un garage cool. À Melun, une présidence de la République.
J'espère la présidence, en effet.
Oui. Bah, sur la copie, rajoutez La République en marche, vous allez marquer des points.
Oui, rajoutez le mot En marche dans chaque phrase. Mettez En marche, ça marche bien en ce moment.
Jeudi 15 juin, En marche, c'est ça.
Oui. Salut. Escortez-les, parce que Jack, vous me les escortez.
Ah, ça y est, ça rentre. Ouais, ça... Non, mais y a
vous êtes bachelier, vous? Vous avez votre bac?
Tout à fait, avec mention.
C'est vrai ou pas?
On espère.
Vous allez y aller, là?
Oui.
Mais non, ça rentre. Pourquoi il vous faut venir une demi-heure avant?
Alors là, Je sais pas trop pour qu'on soit bien prêt, pour que tout le monde puisse se voir avant aussi. Mais on va rentrer dans 10 minutes, je pense.
Je pense que pendant la demi-heure, il y a des règles de sécurité, se mettre sous son bureau, aller se plaquer aux toilettes. Il y a plein de trucs qu'on vous apprend.
C'est 3 heures, non, à peu près?
Bon, attention. Ah, je sais pas, tiens, combien de temps ça dure? Je vais demander.
C'est 3 heures.
Bonjour, combien de temps ça dure l'épreuve?
Non, mais moi, je suis pas élève, je suis journaliste.
Ah, vous êtes journaliste.
Il n'y a plus que des journalistes.
Ah bah c'est sympa,
on peut pas remplacer le mot épreuve par quelque chose d'autre.
Vous avez passé votre bac déjà.
Torture.
Oui. Ouais. Elle a passé son bac déjà. Combien de temps l'épreuve de philo?
4 heures.
4 heures, les gars.
Et ouais, 4 heures.
Mais là, il y a une journaliste, il y a vous, il y a des vrais lycéens ou ça n'existe plus?
Bah oui. Alors vous êtes une journaliste où, vous, mademoiselle? C'est incroyable, c'est une journaliste qui parle pas. Bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas journaliste?
Non.
Et vous?
Mais ça, c'est plutôt réjouissant, ce bac, ce matin.
Bah ouais, ils ont l'air tous décontractés. Ils
c'est le bac qui fait rire. À tout à l'heure.
Ouais, tout à l'heure. C'est Maurice Ravel. Maurice Ravel.
On y va. Salut.
Je crois que je vais passer cette épreuve, moi.
Floriane Roux est au téléphone avec nous. C'est oui, une bonjour. Originaire de la région d'ici, de la région de Nyon. C'est comme on est ici, on s'intéresse à tous ces enfants, tous les enfants de cette Drôme provençale. On voudrait savoir ce qu'ils sont. Et Floriane Roux est une grande championne de boules sportives. Bonjour Floriane.
Bonjour.
J'avoue que vous m'aviez dit bonjour pendant que je parlais et j'étais lancée, je n'ai pas écouté content, je ne me suis pas interrompue. Vous m'en voulez un peu Floriane ou pas?
Pas du tout, pas du tout.
Vous êtes très généreuse.
Alors,
on est avec Atmen Khelif, qui est un grand spécialiste de pétanque. On va s'intéresser à cet autre sport qui s'appelle la boule sportive et qui n'est pas la pétanque, Floriane. Donc, vous avez été vice-championne du monde 4 fois. Vous avez été médaillée de bronze aux championnats internationaux. Alors, est-ce qu'on peut rappeler la différence entre la pétanque...
Décrivez-nous la différence entre la pétanque, le jeu provençal et la longue.
Alors, la longue, exactement, ou la boule lyonnaise. La différence, c'est surtout qu'on joue sur des terrains qui sont plus longs, qui sont tracés, avec des règles un peu plus strictes que la pétanque. Et la grande différence, c'est qu'on prend de l'élan pour tirer et qu'on joue avec des boules plus grosses et plus lourdes.
Oui. Et dans cet élan, je sais qu'il y a 3 pas à peu près, non? Vous
pouvez décrire, nous, on en fait entre 5 et 6, nous, à la boule lyonnaise. Ouais.
Parce que la pétanque traditionnelle, donc c'est le sport que pratique la plupart des gens. C'est ce qu'on voit. On voit plus de championnats de télévision. Donc on est là. C'est entre à combien de mètres faut lancer le cochonnet? On ne sait jamais.
Entre 6 et 9.
À la pétanque, oui. À la boule lyonnaise, entre 12,50 m et 16,50 m pour les filles.
Alors je rappelle, la pétanque traditionnelle, on pointe ou on tire.
Oui, à la boule lyonnaise, c'est le même principe que la pétanque sur l'essence du jeu. La différence vient surtout des règles et surtout comprendre l'élan pour tirer.
Alors c'est plus spectaculaire parce qu'on voit des gens tout à coup bondir.
C'est ça, c'est plus spectaculaire, c'est un petit peu plus sportif, un peu plus physique on va dire. Et puis on a des épreuves modernes qui s'appellent les tirs progressifs, tirs en relais. Là vous avez 5 minutes de course, donc c'est vraiment physique, il faut vraiment être préparé. Pendant 5 minutes vous devez toucher le plus grand nombre de boules cibles. Sur le temps est parti et là c'est assez spectaculaire.
Mais pendant ces 5 minutes, vous tenez, où est-ce que vous portez vos boules à la main? Je comprends rien du tout, Floriane. Vous courez? Ça a coupé? Pour nous aussi?
Non, je vous entends.
Allô?
Oui,
ah non, moi je vous entendais plus. Pardon, Floriane.
Ah, pardon.
Donc vous disiez, vous étiez c'est en train vraiment, de courir. Vous êtes là pendant 5 minutes, vous courez.
C'est vraiment du travail d'équipe, là. Alors vous avez vos partenaires qui sont sur chaque côté du terrain, qui remettent les boules cibles que vous devez toucher et qui remettent également vos boules. Donc vous prenez votre élan d'un côté du jeu, vous tirez à l'opposé, bien sûr, pour essayer de toucher la boule, et vos partenaires remettent les boules en place. Donc vous faites des allers-retours sur le terrain, et là vous devez toucher le plus grand nombre de boules possible. Il y a des vidéos qui sont sur les réseaux sociaux, vous pourrez aller voir, c'est assez spectaculaire.
Oui. Alors Floriane, vous étiez à La Roche-Saint-Secret, ce petit village à 20 minutes de Nyons. À quel moment vous avez... Le plus beau village de France, vous dites?
Oui.
En tout cas, c'est l'un des plus jolis noms, La Roche-Saint-Secret. C'est magnifique. À quel moment vous êtes lancé là-dedans? Vous avez dit, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'aime.
Moi, j'avais une dizaine d'années. Mon grand frère jouait déjà à la boule lyonnaise. Et mon oncle et ma tante ont repris le club du coup de Nyons, le centre de formation. Et du coup, j'ai voulu essayer et voilà, j'ai pris vraiment le virus, la passion et j'ai plus jamais arrêté. Aujourd'hui, j'ai 32 ans et j'ai pas arrêté.
Alors, si c'est plus spectaculaire, est-ce que c'est plus difficile, plus compliqué, plus technique? Pourquoi est-ce qu'on joue moins à la bouillonnaise qu'à la pétanque quand on est en vacances ou quand on est dehors?
Effectivement, oui, c'est un sport qui est plus technique, qui demande quand même, pas un niveau d'expertise, mais qui demande quand même de s'entraîner, de s'essayer si on veut tirer. Ça demande un peu plus d'entraînement et c'est moins accessible aussi par rapport au terrain. La pétanque, on peut jouer un peu n'importe où, c'est un peu l'avantage. La bouillonnaise, il faut vraiment avoir un terrain tracé, défini et prévu pour ça. Donc, c'est vrai que c'est un peu moins accessible au grand public.
Mais les boules sont plus grosses. Il y a tout un matériel plus technique, non? Je crois qu'on ne trouve pas justement dans les commerces.
Il faut avoir un club, il faut connaître des revendeurs. Et puis, le matériel est quand même plus cher qu'une paire de boules de pétanque.
Il faut être pistonné. Il faut, c'est des réseaux, c'est très fermé, c'est des clubs secrets.
Il y a une grande bataille aussi entre les gens qui font du jeu provençal et ceux qui font la lyonnaise. Mais vous jouez quand même à la pétanque normale, à la petite pétanque, au pétanqué?
Alors moi, je joue à la pétanque l'été un peu. Je pense que comme un peu tous les Français, j'aime ça dans la partie loisir. Par contre, pas vraiment en compétition. Par contre, mon mari, lui, en compétition, il joue aux trois boules. La provençale, la pétanque et la lyonnaise.
Alors, il faut qu'on en voit plus à la télévision, si c'est si spectaculaire.
Ça commence à... Oui. C'est très spectaculaire. Je sais pas si j'ai le droit de citer les chaînes de télé.
Bon, bien entendu. Moi, je cite des marques, ils m'envoient des cadeaux après, bien sûr.
Sur l'équipe 21, ils commencent à passer des championnats. D'ailleurs, moi, j'ai fait la finale des clubs cette année et c'est passé sur l'équipe 21.
L'équipe 21, je rappelle. L'équipe 21, n'hésitez pas à envoyer à l'équipe 21. Atmen, dites-moi des argots, Atmen en pétanque, il y a quoi? C'est quoi le vocabulaire? J'adore les...
Alors, il y a la rafle, il y a la casquette, ça c'est sur le... Il y a la tétine.
Le biberon, la tétine.
La boule s'approche du petit qui forme un mamelon, on appelle ça le tétine.
Quand il y a deux boules qui sont proches du cochonnet.
Voilà, et puis...
Qu'est-ce qu'il y a en
boule? Boule devant, boule d'argent, boule derrière, boule ta mère, il y a des trucs comme ça, quoi.
Qu'il y a d'autres, oui, Florian?
J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes expressions.
Il n'y a pas d'expression plus lyonnaise, du genre, tiens, on a fait niafron.
Non, il n'y a pas ça.
La boule guignole, la boule de... Oui, ou bien la boule...
J'ai fait quenelle.
T'as tiré comme un poneau.
Oui, ou bien comme... Comme une mère, ou bien comme... On dirait une Gérard Collomb, quand la boule, elle arrive vraiment à l'intérieur.
Je vais y penser.
Juste, vous êtes vice-championne.
Oui, il faut que vous y pensiez, Florian, il faut renouveler tout ça. Oui, dernière question d'Atmen Kelly de l'Académie française de pétanque
de boule. Vous êtes vice-championne, mais il y a des pays émergents dans le jeu provençal comme la Thaïlande ou les Malgaches. Et vous, il y a des pays qui ressortent, des pays étrangers, alors que la France...
La Chine.
La Chine, ils sont bons en boule lyonnaise.
Elles sont très, très fortes. J'ai perdu 4 fois contre la Chine en finale.
C'est fini maintenant, Florian.
Il faut se battre, il faut gagner maintenant.
Est-ce qu'ils appellent ça aussi la boule lyonnaise en Chine?
Oh, ils doivent avoir leur appellation.
C'est magnifique.
Les Chinois, c'est compliqué, mais ils doivent avoir leur expression. Ils jouent beaucoup la
boule de Shansou, peut-être.
Il n'y a pas d'équivalence de ville, Arnaud.
Ça va être une discipline olympique, j'ai appris bientôt.
Les sports de boule en général ont posé candidature pour les JO 2024 et j'espère que tous ces beaux sports entreront aux JO.
On compte beaucoup sur vous, Florian Roux. Il est temps d'aller vous entraîner, Florian Roux. Il est temps, à bout de bras, de prendre comme deux haltères de superbes boules de pétanque lyonnaise pendant que les Chinois s'entraînent en secret, bien entendu, des caves. Ils ont reconstitué un lion en Chine, vous savez, exactement à l'identique. Ils ont le sosie de Gérard Collomb, à l'identique, tout ça.
Ça m'étonnerait pas.
À la laboratoire, ils entraînent des enfants de 5 ans.
On vous embrasse très, très fort. Salut.
Merci à vous, à bientôt.
La roche, un secret. Salut.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Là, c'était quoi ce dessin?
C'est un arbre.
Un arbre? Et qu'est-ce qui lui arrive là?
Il perd ses feuilles.
Oui. Il perd ses feuilles parce que c'est l'automne en fait.
Oui.
Ah bah oui. Mais là aujourd'hui, c'est pas ce poème-là que tu as choisi. Ça s'appelait Feuille rousse, feuille folle. Donc la maîtresse vous dit. Allez, Léa, au tableau, tu le dis ou comment ça se passe?
Elle dit Léa va au tableau et on la récite tous après.
D'accord. Ah, tout le monde va la réciter une fois dans la classe?
Non, en fait, on fait un par un.
Un par un. Et ça peut, par exemple, il y a des poèmes, tu les as jamais dit devant toute la classe, si?
Si.
tous, tous les élèves le disent tous devant la classe. Dis donc. Est-ce que parfois on a un peu le trac, on se dit oulala, c'est intimide de parler devant les autres, non?
Non.
T'as pas peur d'être debout devant toute la classe?
Non.
Vous êtes combien?
Dès qu'il y a les CE2 l'après-midi, on est 26, et dès qu'il n'y a pas les CE2, on est 16.
Ah, parce que toi, t'es en CE1?
Oui.
Et en fait, ils mélangent les deux classes parce que c'est une petite école, c'est ça?
Non, parce que Sophie, elle peut pas garder plein d'enfants en même temps. Du coup, l'après-midi, on a les CE2.
D'accord. Et Sophie, c'est la maîtresse des CE1 ou des deux classes, en fait?
De la classe des CE2, CM1 et...
Ah oui, dis donc, elle a énormément de monde. Mais parce qu'en fait, cette école, elle est où?
À Venterolles.
Ah ben oui, mais c'est tout petit, c'est là où on est, Venterolles. Ah oui, tu es juste à l'école là, et après, quand tu seras après le CM2, il faudra aller au lycée dans quelle ville alors?
Je sais pas.
Ce sera à Nyons, peut-être, non? Et c'est sympa d'être dans une école où il n'y a pas qu'une maîtresse pour tout le monde, quand même?
Non.
Il y en a combien, tu dirais?
Trois.
Trois? Il y a Sophie, dont on a parlé, qui m'a l'air plutôt sympa. Qui d'autre il y a?
Il y a Claudie, ma maîtresse.
Ah, c'est Claudie. Alors moi, j'embrouille un tout petit peu. J'ai cru que c'était Sophie, ta maîtresse, moi.
Non.
Toi, c'est Claudie.
Et la maîtresse de mon petit frère, c'est Sabine.
Et alors, vous déjeunez avec elle ou elle déjeune ensemble, Claudie, Sabine et...
Je sais pas.
Je suis très intéressé, moi, qui mange quoi, qui mange avec qui. Parce que moi, ma fille, quand elle était à l'école, elle me racontait surtout ce qui s'était passé à la cantine. Toi, tu racontes la cantine?
Bah, quelquefois, ma maîtresse, elle vient manger à la cantine, mais quelquefois, elle va manger avec les deux autres maîtresses. Et tous les enfants vont manger à la cantine.
Et toi, tu t'assois toujours à côté des mêmes ou pas?
Oui, avec... je suis toujours à la même table.
Avec qui?
Avec à la table de Karine.
Alors notez, c'est vous qui êtes chez vous, écoutez. Attendez, pardon.
On note.
Êtes chez vous, vous écoutez l'émission, vous notez s'il vous plaît les prénoms. Donc là, vous avez les trois maîtresses maintenant. Alors, la table de Karine. Oui.
Moi, je suis à la table de Karine. Et il y a Lisa.
Karine, Lisa, voilà. Si vous êtes chez vous, Karine, Lisa.
Une autre Lisa.
Une deuxième Lisa, il y a deux Lisa.
Deuxième Lisa.
Faut pas les embrouiller. Alors, on va mettre un S pour un et Z pour l'autre. Oui.
Il y a Mathéo.
Oui.
Il y a Iris.
Iris, oui. Alors attends, on va voir s'il suit Atmen.
Alors il y a Karine, Lisa S, Lisa Z, oui. Mathéo et Iris.
C'est bon?
Inde aussi.
Ah bah alors note-le, Inde. C'est pas possible ça.
Gabriel.
Et Gabriel.
Il n'y a pas beaucoup de garçons. Hein.
Si, c'est Gabriel garçon, Gabriel fille.
Gabriel Garçon.
Gabriel Garçon, Atmen. Alors, oui, suivez un petit peu, il ne suit pas, tu vois.
Pino Latouka.
Bon, alors, en attendant, on va écouter... Non, le casque ne marche pas, donc ne me le mettez pas, j'entends rien du tout. Alors, on va écouter ton poème d'aujourd'hui. Remettez-le, en
fait. Le poème.
Léa, pendant que tu dis ton poème, il y a à côté de toi un vrai poète, c'est Jean-Noël Mistral.
Bonsoir.
Bonjour.
Tu pensais que ça ressemblait à ça, un poète, ou pas?
T'as pas bien regardé en même temps.
Non, moi, il y a une petite déception dans l'œil, bien sûr, parce que le rêve est toujours mieux que la réalité. Et rêver d'un poète, c'est mieux que de le voir en vrai. Alors, on écoute ton poème du jour.
Le tigre silencieux. Je me coule et je me faufile et je me déroule et je me défile entre les herbes de la jungle. Sur mes pattes veloutées, personne ne m'entend marcher, personne ne m'entend approcher, ni le buffle, ni la gazelle qui viennent le soir boire le calme de la mare, et que je dévorerai si j'arrive à les attraper. Anne-Marie Chapoton.
Anne-Marie Chapoton, comme
c'est
elle
triste,
a raison.
C'est triste quand même.
Hein? Tu trouves que c'est triste comme poème?
Oui.
Un petit peu triste, oui, bien sûr. Le tigre silencieux. Tu as croisé des tigres, toi?
Non.
Tu aimerais?
Oui.
Ah oui, quels animaux tu croises ici au-dessus de Venterolles?
Quelques chats, quelques chiens, et c'est tout. Moi, je vois rien d'autre.
Tu as jamais croisé ici, il y a des chevreuils, par exemple, on m'a dit, il y a des blaireaux aussi, non?
Non, moi, j'ai pas vu.
Bon, bah écoute, toi,
Des moineaux.
Il y a du sanglier ici, quand même. Un petit peu de sanglier.
Il y a des sangliers. Jean-Noël Mistral, on va écouter le journal de 8h et après, vous nous délivrerez votre poème aussi.
Très bien.
Peut-être on va te laisser aller à l'école? Ou tu n'y tiens pas plus que ça, peut-être?
Je sais pas.
Ouais, peut-être qu'on va...
Bah, il y a le bac, là, peut-être. Mais
peut-être tu as le bac? Non, c'est pas cette année, le bac.
Non.
Je sais pas.
Vous n'êtes pas très au courant, Atmen, je crois.
Ah oui, c'est à quel âge, le bac?
Il serait temps pour vous. Merci, ma chérie, le journal de Thierry Paré. Bonne journée.
Radio Nova.
Il est 8h03, donc voilà, ils y sont, hein, ça y est, 700 000 candidats environ passent le bac, coup d'envoi là tout de suite, à la minute même, avec la philo, qu'est-ce que créer, qu'est-ce qu'une personne, objet réel, objet scientifique, la libération de l'homme et finalement sa liberté passe-t-elle forcément par la connaissance des déterminismes, ben voilà, ça pourrait être quelques-uns des sujets, en tout cas c'était ce sont quelques-uns des exemples de sujets de ces dernières années. Selon les ingénieurs, il n'y a pas de risque d'effondrement à Londres, le bilan provisoire de l'incendie qui a ravagé une tour HLM dans la capitale britannique s'élève ce matin à 12 morts pour près de 80 blessés, dont une vingtaine dans un état critique. Le bilan va s'alourdir, selon les secours. Pour l'instant, les raisons du drame demeurent inconnues. Certains parlent d'une explosion, peut-être d'un réfrigérateur, mais celle-ci pourrait être une conséquence de l'incendie et non sa cause. Selon un sondage Elab, plus de 6 Français sur 10 souhaiteraient que le résultat du premier tour des élections législatives soit rectifié au second tour. Autrement dit qu'Emmanuel Macron ne dispose pas d'autant de députés qu'annoncé. 61% des personnes interrogées souhaitent une majorité moins importante. Pour La République En Marche, 20% se disent indifférents. Le candidat socialiste à la présidentielle, Benoît Hamon, soutient, je le cite, sans hésiter, la candidate de la France Insoumise, opposée à Manuel Valls dans la première circonscription de l'Essonne. Pilier du Parlement européen où il siège pratiquement sans discontinuer depuis 1984, Jean-Marie Le Pen est aussi le recordman des levées d'immunité parlementaire. Le Parlement européen a voté pour la 5e fois hier la levée de son immunité parlementaire. Ce dernier devra répondre devant la justice française de propos anti-immigrés tenus en 2009. Et aujourd'hui, le Parlement européen doit se prononcer sur la levée de l'immunité parlementaire, cette fois de sa fille Marine Le Pen. Dans un communiqué d'une rare virulence, le défenseur des droits, Jacques Toubon, dénonce, je cite, « les atteintes aux droits fondamentaux les plus élémentaires dont sont victimes les exilés présents à Calais ». Avec la crise qui oppose le Qatar et ses voisins depuis le 5 juin, les importations, dont celles de lait depuis l'Arabie Saoudite, sont interrompues. Un entrepreneur a trouvé la solution. 4000 vaches de près de 600 kilos chacune vont être importées par les airs. Il faudra 60 avions affrétés par la compagnie Qatar Airways pour transporter les animaux achetés aux États-Unis et en Australie. C'est le plus gros transport aérien bovin de toute l'histoire. La production de lait de vache devrait commencer à la fin du mois. L'affaire Grégory est l'une des grandes affaires criminelles non résolues du XXe siècle. Grégory Villemain avait été retrouvé dans une rivière le 16 octobre 1984, pieds et poings liés. 3 personnes ont été interpellées hier, l'oncle et la tante du père de l'enfant, ainsi qu'une belle-sœur de ce dernier. Les grands-parents de Grégory ont également été entendus en audition libre car leur état de santé ne permet pas leur placement en garde à vue. À partir d'aujourd'hui, les appels et les textos ne sont plus surtaxés lorsqu'on se déplace dans un autre pays de l'Union européenne. Il aura fallu 10 ans de négociations pour faire disparaître ces frais d'itinérance, dites aussi frais de roaming. On a appris la mort prématurée du journaliste Hervé Guéquière, ancien otage en Afghanistan entre 2009 et 2011. Hervé Guéquière, 54 ans, était atteint d'un cancer. Et puis la météo, il va faire encore très beau et très chaud aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Alors évidemment, qui dit forte chaleur dit orage. Hélas, hein, il pourrait fortement pleuvoir aujourd'hui dans le Grand Est.
Nova.
Nova.
Merci Thierry Paré.
Vous en prie.
Non, non, on ne vous le dit pas assez.
Non, mais c'est pour moi.
Non, mais parce que ce que vous recevez, vous le redonnez, vous redistribuez. Merci Thierry
Paré. Je suis un passeur.
Pas tout le temps. Hein, pas tout le temps.
Pas tout le temps. Tout de suite dans la rue avec Jacques Souvent.
En fait, on est en face du ministère de l'Intérieur, dans une boulangerie super chaude avec Fatima. Fatima, vous avez tout dit, vous, dans la vie ?
Non.
Vous en gardez un petit peu pour vous ?
Oui.
Il faut garder un peu certains secrets, bien sûr, certains.
Oui, on ne peut pas dire que dans la vie, hein, on garde un petit peu de secrets dans la vie.
Et à votre avis, Fatima, bonjour.
Bonjour.
À votre avis, la personne qui vous connaît le mieux, quel pourcentage de vous elle connaît ? Elle connaît tout ou elle connaît que la moitié ? Est-ce qu'il reste une part que personne ne connaît ?
Ma meilleure copine intime, elle connaît tout sur ma vie.
Ah oui, parce que Mitterrand, il disait même les gens qui me connaissent le mieux ne connaissent qu'un un tiers de ma vie. Il avait le goût du secret. Vous, votre meilleure amie, elle sait tout.
Oui, je raconte tout à ma meilleure amie parce que j'ai le confiance en elle. Même elle aussi, elle me raconte tout.
Eh bien, on va l'appeler. ça permet quoi ? Donc, vous vous demandez conseil l'une l'autre ?
Oui, tout à fait.
Dans toutes les affaires de la vie ?
Oui, tout, tout.
Et vous pensez toujours ce que vous dites ? Pardon, Edouard. Vous pensez toujours ce que vous dites ?
Oui.
Jacques, arrêtez de torturer madame le matin dans sa boulangerie. Déjà qu'à mon avis, vous êtes peut-être un agent secret chinois ou russe si vous êtes face au ministère de l'Intérieur. Il y a tout intérêt à mettre des agents secrets en face. Vous voyez le ministère de l'Intérieur de la boulangerie ?
Oui. Elles sont toujours là. Elles sont mes clients aussi.
Mais tous les, ça va du policier qui garde le ministère jusqu'au ministre lui-même.
Oui, tout à fait. Et j'ai même, je suis même une amie avec eux.
Mais est-ce que vous êtes amie de Gérard Collomb, le nouveau ministre? Est-ce qu'il vient acheter sa baguette tradition?
Non, non. Pas encore.
Il ne peut pas parce qu'il y a un peu de farine sur la baguette. Ils ne peuvent pas s'autoriser d'avoir des taches sur le costume. Parce que si je vous achète une baguette tradition, même si vous la mettez un sachet, en plus il y a la tentation de manger le quignon de pain. Il va avoir des miettes dans la bouche. Quand il va être interviewé, on va avoir du pain entre les dents. Arrêtez, Fatima.
Oui, tout à fait.
Vous rendez compte des conséquences. Vous compatissez à quoi?
Il est beau ce silence. Je compatissais avec Fatima quand même qui fait le ramadan. Il fait une chaleur époustouflante dans la boulangerie parce qu'il y a des fours qui tournent là. Plus la chaleur, c'est quand même compliqué.
Ouais. Et on est habitué à l'âge de 2 ans de faire le ramadan.
Là, il fait très chaud.
Oui, mais vous ne pensiez pas que vous alliez travailler dans un métier lié à la nourriture aussi. Quand on est enfant, on ne se rend pas compte. Après, si vous travaillez dans une pâtisserie, une boulangerie ou un restaurant, ce n'est pas, c'est pas le même ramadan, évidemment.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais nous, on est habitués. Ça ne veut pas dire que, même si on ne fait pas le ramadan, on ne mange pas qu'est-ce qu'il y a dans la boutique. On aimerait bien changer.
vous êtes habitué à domestiquer votre corps, à lui donner des ordres et qu'il vous obéisse.
Tout à fait, parce que si on mange tous les jours un gâteau ou bien un croissant, on ne va pas sortir de la porte.
Est-ce qu'il y a des ramadans un petit peu adaptés? Par exemple, vous dire, certains ramadans, on a le droit de manger. Par exemple, il y a des religions, par exemple, il y a des catholiques qui peuvent manger de la viande le vendredi. Je sais qu'il y a aussi chez les juifs, certains, on a le droit de manger du jambon de certains ports avec une autorisation écrite du rabbin. Est-ce qu'il y a des imams qui autorisent certains plats certains jours du ramadan?
Non, non, il ne faut pas. Vous pouvez manger le soir qu'est-ce que vous voulez, sans le cochon, bien sûr. Et il ne faut pas manger toute la journée, de 3h du matin jusqu'à 22h.
Donc on attend l'arrivée de l'étoile?
Oui, tout à fait.
À la première. Il n'y a pas la tentation de dire à un copain, tiens, monte là-haut ou pars en hélico, mets une lumière et je croirais que c'est l'étoile quand on a trop faim vers 7h du soir.
Non, non, il faut attendre jusqu'à le soir.
C'est une des questions les plus lamentables que j'ai posées de ma vie, oui. Fatima, je vous remercie. Je vous laisse.
Beaucoup.
Continuez à prendre des notes sur les entrées et sorties du ministère.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Bonne journée et à les transmettre donc à l'ambassade de Russie. Merci beaucoup à Fatima et Jacques Souvent en boulangerie Place Beauvau ce matin. Jean-Noël Mistral, vous avez écouté tout ça. Vous avez vu là où l'œil humain ou l'oreille humaine n'entend que des banalités. Vous entendez de la poésie.
Effectivement, j'ai entendu de la poésie et surtout j'ai visualisé Fatima dans une espèce de nuit auréolée de pain. Et j'étais dans cette boulangerie et comme une mouche poétique.
Rêver de pain de rêve, hein, vous connaissez. Est-ce que dans
l'interprétation... Est-ce que je peux finir mon image?
Oh non.
Parce que je voyais comme une mouche, ouais. Je me posais sur son front, ouais. Par exemple, et je pouvais observer comme ça ses sourcils, ouais. Comme une forêt.
Vous auriez été gagnant c'est à vous laisser. Mal, vous auriez été gagnant à accepter d'être interrompu, vous voyez.
Vous pensez?
Et l'auditeur aussi.
Parce qu'une forêt de cils, c'est quand même. Oui. Je sais pas.
Oui. Jean-Noël Mistral est le poète de l'émission. D'habitude, vous venez surtout ici le mercredi. Là, vous êtes avec nous à Nyons.
J'ai raté mon train. Donc, j'ai pas pu rentrer chez moi, ce qui fait que bon, je suis là.
Est-ce que rater son train, ça n'est pas réussir sa vie, Jean-Noël Mistral?
Peut-être. Ça, c'est subjectif. C'est relatif, la réussite. C'est comme la vitesse.
Non, de l'inattendu naît la magie, le mystère. Et le mystère, c'est la poésie.
Mais l'inattendu est aussi dans l'attendu, puisque de temps en temps, on va dans un train qu'on devait prendre et on rencontre quelqu'un qu'on n'aurait pas dû rencontrer.
L'attendu, oui, mais si on est trop tendu, tout à coup, ça pète.
Oui, bien sûr. Ah, oui. Ça peut péter, sauf si on a une résistance qui puisse faire en sorte de ne pas péter.
Pierre Godot nous a rejoint, le réalisateur du film que je tourne en ce moment, avec Clément et Benoît Poulvorde, qui vient vérifier si j'arriverai à l'heure sur le plateau tout à l'heure.
Exactement.
Pierre, on a des grosses scènes aujourd'hui?
On a une énorme scène.
Bon, je vais arriver. Pivot. Je ne vous inquiétez pas, mais je voudrais écouter avec vous. Asseyez-vous.
On le voit avec sa calculette.
Qu'est-ce qu'il y a, le poème de Jean-Noël Mistral, Armel? Oui. Tu t'en fous? Non, pas après la pub, on peut pas. Oh, vous rendez compte ce qu'on envoie comme signal si on met la pub avant la poésie?
Ça veut dire que la poésie est achetée.
Non, c'est ça, puis en plus, moi, je ne supporterai pas.
Non, mais ça, c'est moins grave. Alors, on écoute le poème de Jean-Noël Mistral.
C'est moins grave, pourquoi?
Et allez parler.
Qu'est-ce qui est moins grave?
Mais je dis que rien n'est grave.
Sors.
Tout est important, rien n'est grave.
Il est agressif, ce Jean-Noël.
Aube. Le poème s'appelle Aube. Aube, Aube, tu glapisses sous l'interstice des colonnades arborescentes. Je comprends pas cette phrase. Mais...
Arrêtez de commenter vos poésies.
Aube, tu glapisses sous l'interstice des colonnades arborescentes et rougeoyes dans l'éther de nos endormissements. Le point du jour se réveille à peine que des steppes oranges apparaissent, mille caresses que l'édredon fait mentir. Aube, tu éclaires le nid de la grive inerte et du pivert transite, afin que leurs premiers besoins, leurs petites pattes ne ripent du rebord de leur couche. Aube, tu glisses ta main sous la jupe de la nuit et elle rougit et s'enflamme et fait brûler tout le paysage. Et quand l'horizon gémit de son trouble de transparence, alors tout à coup, soudain, mon œil s'entrouve de sa paupière lourde et rouillée de mille ans. Et le temps de constituer l'image de cette forêt naissante, quand s'évapore en nuage les rêves, habités de songes et d'ivoire et d'éléphants d'azur et de poutres d'or, tenant des pyramides où se dandinent des chameaux qui fumaient des gauloises. Aube, tu me vitalises, tu es l'eau minérale des poètes. Tu es l'air du beau matin, tu es la biscotte et la brioche. Tu sens la biscotte et la brioche aux noix. C'est aussi à l'aube que le senton se fige, que le senton de meunier s'arrête de meunier, que le senton de la fileuse arrête de filosité, que le senton de forgeron arrête de forgeronner.
Où voulez-vous en venir ?
Ben là.
Eh ben, on est avec vous. On est obligé. Elle part toute seule la pub à 8h15. Je n'y peux absolument rien.
C'est bien.
C'est le monde moderne.
Sauvé par le gong, quand même.
C'est bien. C'est bien parce que j'arrivais plus à lire mes notes.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h.
2h d'émission. Mais c'est beaucoup trop court.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal ? La revue de presse de Marie ? Missé.
Bonjour.
Bonjour Marie.
Bonjour. Ce matin dans la presse, on parle beaucoup de la dette grecque, car aujourd'hui aura lieu un Eurogroupe consacré en grande partie à la Grèce pour arriver à un nouvel accord. En une, Libération conjure Monsieur Macron, il faut aider la Grèce et plaide pour un allègement au moins partiel de la dette, alors que dans Le Parisien, on pense que la France va proposer d'échelonner les remboursements en fonction de la croissance grecque, et ça pourrait nous mener jusqu'en 2060. Alors si on en croit Libé, le système de santé grec ne tiendra clairement pas jusque-là. La Grèce assiste en effet impuissante à l'exode de ses médecins. Ces dernières années, leur salaire a baissé de 45% en moyenne. Dans des histoires qui arrachent un peu des larmes, si on les lit un peu trop tôt dans la journée, on apprend que beaucoup, notamment beaucoup de personnes âgées, renoncent à se faire soigner. Partout, il manque des effectifs. Dans l'hôpital de Corinthe, par exemple, il devrait y avoir 84 médecins, on en compte 60, et 306 infirmiers, il y en a seulement 197.
Il faut le lire plus tard, parce que vous pensez que le cœur s'endurcit au fur et à mesure de la journée.
Le mien, en tout cas,
c'est
oui.
C'est terrible, vous êtes c'est touchant comme idée, oui.
Pour vous donner une idée de la purge et du manque de moyens de la santé en Grèce, le budget alloué est passé de 23 milliards en 2009 à 14 milliards aujourd'hui. Et alors, pour vous donner une idée du gouffre, sachez que le budget de l'Allemagne pour la santé est de 322 milliards, comparé donc aux 14 milliards ramenés à la population, même plus nombreuse en Allemagne. Ça fait beaucoup. En cause, la logique comptable, lit-on, qui seule a prévalu au détriment des médecins, des malades et du bon sens lui-même. La logique comptable, c'est aussi ce qui pousse beaucoup de jeunes chinoises de 20 ans à faire de la chirurgie esthétique. Le Figaro raconte que les patientes veulent toutes la même tête, grands yeux, pommettes hautes et nez pointu. La plupart d'entre elles, beaucoup veulent...
Comme moi.
Exactement comme vous, Edouard, veulent devenir des célébrités sur Internet, estiment que leur revenu sera directement lié à leur apparence. Les agences de talent, souvent, prennent des dates pour des opérations de chirurgie esthétique avant toute chose. On peut d'ailleurs prendre rendez-vous pour une opération en 2-3 clics. Et le secteur n'est en plus pas très réglementé. Le pire, dit un chirurgien qui refuse ces opérations, c'est que certaines des filles demandent un visage qu'elles ne trouvent même pas beau. Pour faire des sous rapidement.
Un visage qui rapporte. Oui,
elles estiment qu'elles n'ont pas le choix. La logique comptable, encore une fois. Dans Le Parisien, comme dans Le Figaro ce matin, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de logique comptable, voire rentable, au baccalauréat. C'est la première épreuve de philo aujourd'hui. Et l'occasion pour eux de dire que cet examen ne sert à rien, qu'il coûte cher. Le Parisien explique qu'en plus, que les facs craquent, que maintenant on tire les étudiants au sort et que 6000 élèves n'auront pas de place en amphi l'an prochain. Dans Libé, on défend quand même l'épreuve de philosophie. Pierre-Henri Travaillot, prof à la Sorbonne de philo, rappelle que c'est bien d'apprendre aux élèves à penser contre eux-mêmes, à les obliger à argumenter contre leur propre thèse pour comprendre l'autre, sans doute. Dans l'hebdomadaire Le 1, Nancy Houston, l'écrivaine nous raconte que Colum McCann, écrivain lui aussi, a la même intuition. Il a créé un truc qui s'appelle réseau d'empathie travaillée, ou narrative fort en anglais. Il crée des groupes, il donne un thème, comme le contrôle des armes par exemple. Ensuite, ils font des paires avec un pour et l'autre contre. Les deux discutent. À la fin, celui qui est contre doit argumenter pour celui qui est pour, et vice-versa. Le but, donc, se mettre à la place de l'autre. Nancy Houston n'est pas super convaincue. Elle explique que dans cette discussion armée et empathique qu'on peut voir en vidéo, on voit l'échange dégénérer, insultes et accusations fusées, et puis portes claquées. Pour Nancy Houston, seul le roman qui explore la complexité des personnages peut permettre réellement une empathie. Mais je cite, « Notre empathie doit basculer en dehors des livres pour se traduire en acte politique. »
Merci beaucoup Marie Missé. Arnaud, vous êtes plutôt pour ou contre ?
Moi, je suis plutôt contre. Je crois que j'aime pas trop Nancy Houston parce que elle était contre les existentialistes, contre Nietzsche, tout ça, contre les gens négatifs. Et c'est quand même les existentialistes qui ont découvert le féminisme. C'est quand même eux qui ont défendu. Enfin.
Bon, je suis désolé.
Le colonialisme. Enfin, contre le colonialisme.
Ouais. Atmen, vous êtes.
À un moment donné. Oui.
Non, moi, je voulais aller à la piscine parce que j'avais le temps qu'elle était chauffée. J'ai appris qu'elle était chauffée.
Non, ne prétendez pas qu'on vit dans des conditions de luxe.
Vous en croquez, mon grand.
À côté du tennis, là, oui, vous passez ça. Derrière le mini-golf, voilà. Vous verrez. Mais ça, c'est la piscine du cuisinier. Non, c'est pas. Merci beaucoup, Marie Missé. Ça a dégouliné derrière. Heureusement qu'il y a Arnaud et Marie, sa pensée.
À tout de suite.
7h, 9h, plus près.
Plus près de toi.
7h. 9h.
Édouard Baer, 7h, 9h. Oh, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Parce que il dit c'est maintenant, je suis citoyen, mais il ne dit pas c'est quand maintenant. C'est ça qui est.
C'est ça qui est difficile.
Parce que quelqu'un qui voudrait.
Ils disent maintenant, c'est pas après.
Oui, mais maintenant, vous dites maintenant pendant que ça a lieu, mais demain, il sera le maintenant de demain.
Moi, je suis passé hier.
C'était pas maintenant. Ils vous ont dit reviens demain. Bah, il faut qu'ils disent demain.
Demain, c'est pas aujourd'hui.
C'est aujourd'hui, mais ici, ils l'ont pas mis qu'aujourd'hui, la pub maintenant.
En fait, ce qui est intéressant dans leur pub, c'est que le maintenant est intemporel. C'est un maintenant intemporel, c'est-à-dire que c'est un maintenant qu'on peut écouter tout le temps.
Non, mais non, par exemple, les soldes, ça doit être pendant les périodes des soldes. On peut pas solder tout le temps.
C'est pas tout le temps, les soldes. C'est pas tout le temps.
Il y a les.
En tout cas, hier, c'était pas maintenant.
Moi, je fais partie
d'une association. Il y en aura eu de la pub. On se sera bien fait chier. Là, ça devient maintenant. De temps en temps, on prendra ta parole entre deux pubs. On vous dira un peu de météo. On vous annoncera deux, trois trucs. Qu'est-ce que vous voulez que je dise,
la fibre orange.
Fibre orange, c'était bien parce que les mecs deviennent sympas. Vous avez vu la fibre orange. Le père, il a ses enfants.
Il y a une famille éclatée, mais pour 19 euros avec la fibre orange, tout le monde est content. Là, tout le monde adore papa.
Ah bah, tout à coup, là, il ferait mieux de donner 19 euros directement à ses enfants.
Directement.
Pardon, mais c'est un tout petit peu vichiste.
Ah, monsieur, vous voyez.
Et la bière est de levage, il y avait du vent. Et je pensais, oui. Pierre Godot, vous n'avez pas mis en scène des pubs radio ?
Non.
Mais
non.
C'était beau, l'idée de rajouter du vent, tout à coup, du vent dans la tête, c'était bien.
Il était brainstormé en boîte de nuit, ça, à mon avis.
Une bonne pub pour de la bière le matin, c'est bien. Pardon, oui ?
Non, mais je vous en prie. Cette histoire de maintenant, pas maintenant, hier, aujourd'hui, ça aurait très bien pu être un sujet de philo ce matin pour les bacheliers, hein.
Eh bien Thierry, je vous
passe
la parole.
J'ai préféré la compagnie créole, c'est bon pour le moral. Mmh.
Ici et maintenant, avec Thierry Paré.
Radio
8h31, voyez Arnaud là, je ne peux pas dire 32 parce qu'il est 31h55.
Il planche donc.
Maintenant, depuis, 8h32, Thierry Paré.
Il planche donc depuis 32 minutes. Les 700 000 candidats du bac 2017 commencent, c'est une tradition, par la philo. La philo qui donne donc le coup d'envoi d'une semaine d'épreuves. Dans un communiqué d'une rare virulence, le défenseur des droits, Jacques Toubon, dénonce, je cite, les atteintes aux droits fondamentaux les plus élémentaires dont sont victimes les exilés présents à Calais. On les estime à entre 500 et 600 en ce moment. La rémunération de Carlos Ghosn au menu de l'Assemblée Générale de Renault. Aujourd'hui, les actionnaires du groupe sont convoqués dans un climat qui est alourdi, c'est le moins qu'on puisse dire, par des révélations sur un possible système de super bonus pour le PDG et ses cadres. Selon un sondage Elab, plus de 6 Français sur 10 souhaiteraient que le résultat du premier tour des élections législatives soit rectifié au second tour. Autrement dit, qu'Emmanuel Macron ne dispose pas d'autant de députés qu'annoncé. 61% des personnes interrogées souhaitent une majorité moins importante pour La République En Marche. Le Parlement japonais a adopté tôt ce matin, aux premières heures de la matinée, une loi pour lutter contre le terrorisme qui suscite de nombreuses protestations de citoyens. Sur fond d'inquiétude pour les libertés individuelles, tout au long de la nuit, l'opposition a tenté de retarder l'échéance en déposant une motion de défiance contre le gouvernement conservateur de Shinzo Abe et une motion de censure aussi contre le ministre de la Justice. Selon les ingénieurs, il n'y a pas de risque d'effondrement à Londres. Le bilan provisoire de l'incendie qui a ravagé une tour HLM dans la capitale britannique s'élève ce matin à 12 morts pour près de 80 blessés, dont une vingtaine dans un état critique. Le bilan va s'alourdir selon les secours. L'affaire Grégory, l'une des grandes affaires criminelles non résolues du XXe siècle, Grégory Villemain avait été retrouvé dans une rivière le 16 octobre 84, pieds et poings liés. Trois personnes ont été interpellées hier. L'oncle et la tante du père de l'enfant ainsi qu'une belle-sœur de ce dernier et les grands-parents de Grégory ont aussi, eux, été entendus. À partir d'aujourd'hui, les appels et les textos ne sont plus surtaxés lorsqu'on se déplace dans un autre pays de l'Union européenne. Il aura fallu 10 ans de négociations pour aboutir sur ces frais d'itinérance, dits aussi frais de roaming. On a appris la mort prématurée d'Hervé Guéquière, le journaliste. Ancien otage en Afghanistan entre 2009 et 2011, Hervé Guéquière, 54 ans, était atteint d'un cancer. Et puis la météo, il va faire encore très beau et très chaud aujourd'hui sur l'ensemble du pays. Alors évidemment, qui dit forte chaleur dit orage. Il pourrait fortement pleuvoir aujourd'hui dans le Grand Est.
Nova.
Nova.
8h34, l'invité de 8h34. Jean-Claude Ruquier-Hanouna, bonjour. Jean-Claude Ruquier-Hanouna, vous êtes président de l'association qui représente les magasins d'appliques mérovingiennes à travers la France. Vous aviez un coup de gueule à pousser par rapport au coût de la publicité sur Radio Nova qui ne vous autorise pas à apparaître dans nos pages publicités.
Ben oui, tout à fait. J'étais donc dans
vous la... Vous êtes timide, approchez-vous, n'ayez pas peur. Le micro est votre ami, n'ayez
oui,
pas peur.
Oui, j'arrive pas à
c'est votre première.
J'ai du mal avec les sujets, ça va, les verbes, ça va, puis après les compléments d'objets
directs. C'est votre première radio, je rappelle que...
Quoi ?
Jean-Claude, oui. Vous dites aujourd'hui le tarif est exorbitant.
Le tarif est exorbitant.
Ah oui, vous le répétez.
Je ne cesse de le répéter, de tenter de prévenir la population, enfin le monde.
Oui, vous n'êtes pas bon en radio. Hein,
non,
vous n'êtes pas bon. Les appliques mérovingiennes, c'est ce que vous vendez. C'est un réseau de magasins d'appliques mérovingiennes qui aimeraient bien pouvoir acheter de l'espace publicitaire tant en radio qu'en télé. Et vous me dites c'est exorbitant.
C'est exorbitant.
Il n'y a qu'à voir les annonceurs. Nous n'avons que des voitures, des bagnoles, des quatre roues,
de la fibre orange.
Je pense que le 22e siècle sera mérovingien, ne sera pas.
Ah voilà, là c'est fort.
Et je pense que si on a des voitures de demain, des voitures, des appliques murales et des intérieurs de maisons mérovingiennes, on pourra revenir à une tradition française et on ne se posera plus la question de cette
identité nationale. D'accord, ne passez pas tout de suite en espace publicité. Vous voyez, là je ne vous reçois pas pour vendre vos produits, pour expliquer le scandale de la publicité à la radio.
Oui. Moi j'ai vu un petit peu, je suis allé dans le magasin de Jean-Claude, j'ai vu les appliques murales mérovingiennes, ça ne va pas partout.
Ça ne va pas partout.
Non, dans les salons, c'est assez moche.
C'est un autre débat. C'est un autre débat, la notion du beau et du Vous n'êtes pas propriétaire du bon goût.
C'est juste que tout est en pierre taillée.
Je suis allé chez vous.
Donc aujourd'hui, quelqu'un un honnête commerçant qui voudrait simplement vendre des appliques mérovingiennes, j'applique que ce sont des appliques murales lumineuses.
Oui. Tout à fait, c'est des appliques murales avec deux torches.
Toutes les ampoules n'y vont pas.
Tout n'y va pas, on y reviendra. L'idée, c'est la mise en lumière de l'appartement.
C'est la mise en lumière.
De la maisonnée. Donc on passe de l'obscurité à la lumière, un petit peu comme quand le jour se lève. Donc la famille là, papa il fait noir et tout à coup non il ne fait pas noir les enfants, on appuie sur le bitonio et les appliques mérovingiennes qui étaient déjà belles éteintes,
pas vraiment,
pas très belles ou moches suivant les
points de vue. Non, elles sont pas belles, elles
tout
sont
à
pas
coup,
moches.
Fiat Lux, la lumière arrive et là la merveille mérovingienne.
C'est ça, mais il faut avoir des murs de 6 mètres d'épaisseur.
Alors
ces appliques mérovingiennes font de 4 à 5 tonnes et donc il faut savoir les appliquer.
Où est votre boutique, Jean-Claude Ruquier-Hanouna?
Je n'ai pas le droit de le dire.
Alors,
il était venu il y a 2 ans avec des lunettes de WC amérindiennes.
Oui, c'est vrai.
Qui étaient d'une laideur incroyable.
Très inconfortable
à la fesse.
Avec de l'huile de palme.
Oui, si vous aussi, vous avez des petits commerces et vous ne pouvez pas acheter de l'espace publicitaire, envoyez votre courrier.
Faire un coup de gueule ici.
Ou gardez-le chez vous, on viendra le chercher.
Bonjour tout le monde, en direction du Hellfest.
Quoi?
Mihai, ça va?
Ben oui, et toi, ça va?
T'arrives du Québec?
Ben oui, j'arrive du Québec et je m'en vais directement au Hellfest.
On est dans la
rue
où?
Parce qu'au Hellfest, c'est juste la débauche qui va se passer. Aerosmith, il y aura beaucoup. Rob Zombie, il y aura Trust, il y aura Professor Frage, il va y avoir même
Rancid, you have suicidal tendencies. T'es avec ta copine Audrey. Bonjour Audrey.
Enchanté.
T'es arrivé de Québec? Ouais, on vient toujours d'arriver hier, en fait, du Québec. Ben oui, on s'en vient voir le gros festival. On va faire changement du Rockfest. Hellfest, c'est le festival de heavy metal. Il y a 5 bûches là qui sont prêtes à partir. On est 5 boss prêts à partir là. En plus que le show est sold out, fait qu'on va bien s'amuser avec tout ça là.
Bon, on s'amuse déjà bien. Mais bonjour.
Oui, bonjour. Vous allez bien?
Ça va et vous?
Ben oui, bien sûr.
Vous êtes venu exprès du Québec pour le Hellfest à Paris?
Ben oui. On peut pas manquer ça ici.
Ah, ça fait plaisir.
Ah, ben le plaisir est à moi.
Mais non, c'est moi, je vous en prie, vous en êtes un autre.
Ben, on vient visiter nos conjoints.
Ah, vous êtes marié à quelqu'un qui est là?
Mais non, on est du Québec, vous êtes de la France.
On est des cousins, c'est la famille.
On est des cousins, ben oui, c'est la famille, c'est vrai.
Je me souviens.
Ah, je me suis souvenu aussi.
Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a le Hellfest, donc vous allez vous en mettre plein les oreilles. Et ensuite, vous allez un peu vous balader sur Paris, vous allez rigoler, vous allez visiter?
Ben, on s'en va au Hellfest, on va se rigoler, on va aussi affecter notre foi. Et ensuite de ça, on va continuer le trajet, on va essayer de voir d'autres concerts ailleurs. Mais malheureusement, on va passer à Barcelone pour s'amuser un peu avant.
Et Audrey, c'est votre compagne alors qui vous accompagne?
Ben oui, elle va vous dire quelque chose.
Je vous la passe.
Oui, Audrey.
C'est cette voix ténébreuse.
Bonjour.
Bonjour Audrey, c'est vraiment la fête ce matin.
Ah oui, c'est la fête. Ça commence dans le boss. Jusqu'au Hellfest pendant 3 jours.
C'est quoi ton truc, Audrey, pour être en forme de bonne humeur dès 8h30 le matin?
La musique.
Oui.
C'est mon guide, donc on se lève de bonne heure pour aller boire et écouter de la musique.
Ben bravo Audrey, en tout cas, merci d'avoir fait tout ce chemin. Repasse-moi ton conjoint une seconde, on te fait un gros béco.
Bien sûr, bisous.
Bisous.
Mihail, yes.
Mihail, viens, reviens, Mihail.
Ouais, je suis là, moi.
Tu as 30 secondes pour nous filer la frite et la pêche à nous tous ce matin, c'est parti.
Vous
nous donnez de l'énergie, vas-y, envoie.
Ben bien sûr, tout le monde, on s'amuse. On est tous bons. Quoi? Joyeux Hellfest, bonne nouvelle à tout le monde.
Merci beaucoup.
Ça met le monde en mood, hein? Même s'il est présentement que 9h et moins quart du matin, souvenez-vous, c'est une bonne chance.
Ici, il y a le Hellfest aussi, ici à Nyos. Merci à tous. Merci Jack. Merci Mihail, merci Audrey. On a notre Hellfest à nous. Nous aussi, on a notre Hellfest à nous avec Arnaud Aymar du groupe Les Nos Futurs, Nos Passes, Nos Présentes. Pas de futur, pas de présent, pas d'avenir. Allez, on casse tout, on pète les ondes radio. Allez, on hurle à ses fans jusqu'à ce que les gens passent sur RT, Europe 1, France Inter, Virgin Radio, Tonic FM, Oui Tropical, Africa. Allez, c'est parti. Envoyez du son.
Yeah.
And cut it.
Salut.
De 7h à 9h, j'écoute Plus Près de Toi.
Plus Près de Toi?
Oh, il fait une chaleur dans cette émission.
Tiens, il n'y a pas de pub là, c'est la première fois depuis très longtemps. Ammoniacal. Bonjour.
Bonjour.
Je suis encore
bien content d'être ici avec toi.
Tu es là avec nous à Venterolles, au-dessus de Nyons, depuis quelques jours maintenant. On a appris à mieux se connaître, on t'a vu dans ton quotidien.
Il y a quelque chose que je voulais savoir.
Tu vas le savoir.
C'est qu'est-ce qu'il y a sur la table? Parce que comme je suis trop petit, je n'arrive pas à voir ce qu'il y a sur la table. Et pour moi, c'est comme un mystère.
Tu sais, certains mystères doivent rester des mystères. Tu ne sauras pas ce qu'il y a sur la table. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a sous la table. C'est ton monde à toi, le monde de sous la table.
Oui. Donc je suis moitié pingouin, moitié homme, moitié chiffon.
Ton petit générique?
Ok. Mignon, ammoniacal.
Ammoniacal, tu as trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de publicité, mais toi tu as trouvé que c'était formidable.
Oui, parce que c'est important, je pense, le libéralisme dans votre société, parce que comme ça on peut s'acheter des choses. Parce que moi j'habite dans la forêt extraordinaire et là il y a très peu de produits de consommation et c'est vrai que c'est pas...
Ça manque.
C'est moins gai.
Ben ça doit manquer parce que quand tu es là dans la forêt que nous, citadins, on aime traverser à 130 sur les autoroutes, 110 par temps de pluie et 90 sur les nationales, eh bien, toi, tu y restes une fois qu'on est passé en coup de vent, en klaxon. Toi, tu restes là.
Je reste là. Et j'ai des amis escargots, mais en fait, c'est des escargots écrous et... Mais c'est du 15.
C'est pas l'escargot de tout le monde ?
Non. Mais des fois, parce que des fois, il y en a, c'est du 14. Mais eux, c'est du 15. Parce qu'en fait, toute la forêt, en général, les boulons de la forêt, c'est du 15.
C'est tout avec une clé de 15, on peut tout réparer en forêt.
On peut tout démonter. On peut tout démonter. La forêt, si on a envie de la démonter, on peut la démonter.
D'accord.
Et l'autre jour, j'étais avec un ami lapin. Enfin, c'est pas vraiment un lapin, c'est un Pékinois avec une peau de lapin, mais on l'appelle lapin.
Ah bah il est là.
Et il est aussi un peu brosse à cheveux, et je le vois, il me dit, ça va ? Je lui dis, moi. Et il dit, on a qu'à démonter toute la forêt. Je dis, mais pourquoi ? Et il me dit, ben, je sais pas, mais comme ça. Et je lui dis... Mais ouais, mais pourquoi ? Il me dit, bon bah, c'est quand même marrant. Après, j'ai dit, mais pourquoi ? Il me dit, ben bon. Et puis, on a commencé à démonter toute la forêt, et puis voilà. Et puis,
une belle histoire que tu nous as racontée aujourd'hui.
Et voilà.
Merci à Maniacal.
Merci.
La prochaine fois, quand nous serons sur nos autoroutes ou nos routes, nous penserons à vous.
Oui.
Qui restait là dans la forêt. Oui.
Des fois, je suis derrière une rambarde.
Bah, tu feras coucou. Oui, tu feras coucou. Merci. Oui.
Je voulais partir en citant le grand griot africain Saïdou Abacha.
Oui.
Andianda Andata, qui mange une noix de coco tout entière, fait confiance à son anus.
Quel est le rapport ?
Bah, c'était juste une poésie avant de partir.
Moi, je trouve ça tellement.
Merci beaucoup. Ça va être fini pour nous ici à Nyons. Merci à tous les gens ici qui ont été merveilleux. À Nathalie Elias du bistrot de Venterol qui nous a aidé à trouver des invités, des enfants qui sont venus dire des poèmes. C'était chouette. Et avec Pierre Godon, on va partir faire du cinématographe, Pierrot.
On va essayer en tout cas.
Hein. Et puis il y a un très beau live là à Paris, donc on reste avec Rudy. À tout de suite.
À tout de suite.
7h-9h, plus près de toi. Plus près de toi. Édouard Baer.
Bonjour Rudy.
Bonjour Edouard. Vous allez bien ?
Racontez-nous l'ambiance, dites-nous tout. Oui, ça va
très bien. Il y a plein de monde sous cette verrière. Il fait chaud, il fait beau. Les Songoï Blues sont avec nous. Ce matin, nous repartons du côté du désert saharien au Nord Mali, région aussi instable politiquement que bouillonnante musicalement. L'histoire des Songoï Blues, Edouard, est liée, pour ne pas dire née, dans une situation de crise, une situation de guerre. Flashback quand en 2012, alors que Tombouctou et le Nord Mali sont en plein chaos, que la population fuit vers l'inconnu, vers l'exil, trois jeunes musiciens issus de la même ethnie Songoï, Gaï, se prénommant Aliou, Garba et Oumar, trouve refuge à Bamako. Il rencontre Nathanaël, Songoï Blues est né. Depuis, à l'image du titre de leur deuxième album intitulé Résistance, le groupe résiste, amplifie les idées et la vie d'une bande de jeunes hommes en exil, dont l'arme principale est la musique et plus précisément le rock. Car oui, Songoï Blues fait bel et bien du rock, un rock tourné à 360 degrés face au reste du monde qui les a adoubés depuis 3 ans. Pour preuve, même Iggy Pop s'est incrusté sur leur nouvel album. Aliou, Garba, Oumar et Nathanaël, comme vous le dites si bien dans ce poignant documentaire de la BBC s'intitulant They Will Have to Kill Us First, Malian Music in Exile, vous êtes en mission pour que le message passe par votre musique, car le Mali ne peut pas vivre sans sa musique. Et bien ce matin, nous allons essayer d'envoyer ce message le plus loin possible. Et comme le chantait déjà Fela à l'époque, Music is the weapon, gardons espoir, la prochaine fois nous viendrons peut-être nous à vous, à Tombouctou. Songoï Blues, ils vont nous interpréter un premier morceau qui s'intitule Sahara sur leur nouvel album qui s'intitule lui aussi Résistance. Songoï
Blues,
c'est
Rudy,
à vous.
Merci Rudy, Tombouctou, terminus du fleuve Niger, du bateau qui passe par Mopti.
Songoï Blues, Sahara, l'album s'appelle Résistance. Merci à tous, merci Edouard, bisous à toute l'équipe.
Merci à tous, merci. Nous, c'était notre dernière ici à Nyons. On est heureux, on sera... Ensuite, il y a d'autres voyages. On sera en direct de Tokyo. Et puis le 26, on finit tous dans une émission en public à Paris. Merci, salut.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.